les pays industrialisés d'abord continuent à s'enfoncer dans la crise, mais là où le vrai drame se joue, c'est dans, bien sûr dans l'hémisphère sud. Et là, les problèmes qui se posent, c'est la destruction par la faim, c'est la destruction par les épidémies qui progressent, comme la malaria, comme le sida. C'est des problèmes de la désertification des sols. Vous savez que le Sahara progresse à certains endroits jusqu'à 5 km par an vers le sud. Je reviens du Sénégal, au nord du Sénégal, le sol maintenant est dur comme du béton, ce qui fait que des millions de personnes doivent s'en aller. Eh bien, ils rejoignent soit les bidonvilles de Dakar, de Bamako et de Niamey, donc une vie de prostitution enfantine, de sous-alimentation, de chômage permanent, ou alors ils prennent la mer sur des pirogues totalement pourries, risquent leur vie pour atteindre la frontière sud de l'Europe. Or, un tiers à peu près des personnes qui prennent la mer par an meurent dans les flots. Tout ça, c'est la conséquence de la faim, la sous-alimentation, la destruction des structures familiales, communautaires, qui sont, encore une fois, la suite, la conséquence, le produit immédiat de la catastrophe économique mondiale.
La sécurité alimentaire sera une nouvelle fois au menu des discussions. Selon la FAO, environ 100 millions de personnes supplémentaires seront touchées par la faim cette année. Est-ce que ce dossier va enfin être pris au sérieux ?
Vous savez, l'intérêt, c'est totalement révoltant que tous les 5 secondes, un enfant de sous de 10 ans meurt de faim, que plus de 100 000 personnes par jour meurent de faim ou de ses suites immédiates, et que, pour la première fois depuis l'histoire dans l'histoire de l'humanité, plus d'un milliard de personnes, un homme sur 6, est en permanence gravement sous-alimenté. Sur le plan moral, tout le monde est d'accord, c'est le scandale numéro 1 de notre temps. D'autant plus que ce massacre quotidien de la faim n'est pas un problème de production, mais de distribution.
À quel niveau se situe la responsabilité des pays riches dans l'appauvrissement aujourd'hui des pays en voie de développement ?
La responsabilité des représentants des gouvernements du G8, donc des 8 pays les plus puissants de la planète, est totalement écrasante, parce que ensemble, ces pays, ces économies, contrôlent plus de 81% de toute la production mondiale. Ils devraient prendre des mesures qui tombent sous le sens, je reviens à la sécurité alimentaire, pour combattre la faim, il faut arrêter net, et c'est tout à fait possible par des lois, puisque c'est des états de droit qui se réunissent, interdire la spéculation boursière sur les matières premières agricoles, sur les aliments de base. Il faut interdire, au moins pendant 5 ans, jusqu'à ce que des nouvelles techniques soient développées qui permettent de brûler et de fabriquer des agrocarburants par des déchets agricoles. Pendant 5 ans maintenant, il faut interdire la fabrication du bioéthanol et du biodiesel. Il faut rétablir le niveau, au moins, de l'aide publique au développement, des investissements publics dans les 122 pays du tiers-monde. Et il faut surtout, c'est une proposition centrale de la commission Stiglitz, mais qui ne figure pas sur l'agenda du G8, c'est de légaliser tous les travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent dans les pays G8. Parce que vous le savez comme moi que dans un très grand nombre de cas des 122 pays de l'hémisphère sud, les transferts depuis l'étranger des travailleurs émigrés vers leurs familles pauvres sont extraordinairement importants.
Alors, on a bien compris l'urgence de mettre en place ces nombreuses mesures. En même temps, est-ce que ce n'est pas une utopie de penser que les dirigeants du G8 sont véritablement convaincus ?
Le problème est le rapport entre les gouvernements et les groupes financiers. Les gouvernants qui vont se retrouver à Aquila sont en charge non seulement de l'intérêt des groupes financiers actifs à partir de leur pays, mais surtout du bien commun. Eh bien, c'est aux citoyens et citoyennes de se mobiliser, et la pression qu'on peut faire sur les gouvernants peut et doit se transformer en décision de solidarité pour l'humanité entière.
Alors parmi ces pressions, la pression du Vatican, le G8 va s'ouvrir au lendemain de la publication de la troisième encyclique de Benoît XVI, une encyclique sociale qui va proposer une contribution de l'Église aux grands défis de nos sociétés en pleine crise économique. Est-ce que la voix du pape peut véritablement être entendue par ses leaders ?
C'est évident qu'une encyclique du Saint-Père est un instrument politique au sens large du terme, hein, au sens moral extraordinairement important et peut provoquer cette insurrection des consciences. Il peut mobiliser les consciences, les alimenter par l'analyse et par les préceptes. Et le fait que cette encyclique sort presque en même temps que le G8 se réunit est évidemment d'une importance capitale et un signe d'espoir.